Le 25 décembre 1944, sur les ondes de la France libre, le speaker se veut rassurant sur l'état de la situation militaire.
Après une semaine difficile, la bataille des Ardennes prend un tour nouveau. Un tour nouveau et favorable, du moins partiellement, aux armes alliées.
Les Allemands ont donc lancé une grande riposte dans les Ardennes. Et la guerre n'est pas encore gagnée pour les Alliés.
Il est encore trop tôt pour se laisser aller à un optimisme définitif, mais il est certain que les chefs militaires alliés disposent maintenant de moyens puissants et coordonnés qui leur permettent d'envisager l'avenir avec une confiance fondée.
Dans la bataille des ondes, le speaker de la France libre affiche un optimisme qui n'atteint en rien l'euphorie née chez les collabos de Sigmaringen depuis la contre-offensive allemande. Ils se prennent même à rêver d'un retour en France.
Il y avait un programme qui nous avait séduit. Travail, famille, patrie nous séduisait. C'est ce qui avait déterminé au départ notre engagement.
Après un automne moribond et angoissé, les fêtes de Noël 1944 ont une toute autre saveur au sein de la colonie des réfugiés français à Sigmaringen. À la mi-décembre, la Wehrmacht s'est rebiffée et offre désormais un nouvel horizon aux collabos, celui de rentrer à Paris sur les chars allemands. Pendant quelques jours, dans une atmosphère crépusculaire, règne une étrange effervescence. Au point que les ultras de la collaboration sont persuadés que la marche de l'histoire va se retourner en leur faveur.
L'Allemagne ne sera pas battue. Jamais.
Par ailleurs, des rumeurs de plus en plus folles courent sur les armes secrètes d'Hitler. On se prépare donc à regagner ses pénates en vainqueur. Alors, à quoi ressemblent réellement ces fêtes de fin d'année au château de Sigmaringen? Est-ce l'énergie du désespoir qui est à l'œuvre? Et comment la propagande entretient l'horizon insensé d'un retour d'exil? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, sereine mais impitoyable, la France accuse. Et les visages de ceux qui croyaient faire de l'ouest de l'Europe le jardin de loisirs de l'Allemagne victorieuse sont blêmes.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Crépuscule des Bourreaux. Quatrième épisode, la divine surprise.
Vous allez ployer le genou en terre en signe de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne.
Tentons maintenant de nous approcher du wagon DSS. Aux fenêtres pendent à côté de drapeaux tricolores les drapeaux noirs marqués des deux SS en forme d'éclairs.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941 vous étiez un jeune fasciste?
Non, ça ne me gêne pas.
Bon.
Les jeunes, après moi, vive le maréchal!
Je parle de Pétain, je parle de Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Et je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on veut vivre.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable.
Ici Nuremberg.
La France vous demande que justice soit faite.
Zéro, moins deux heures. Toutes les unités prêtes pour l'attaque. Je répète, zéro, moins deux heures. Toutes les unités prêtes pour l'attaque.
Le récit débute le samedi 16 décembre 1944. À 5h30 du matin, l'artillerie allemande entre en action. Par surprise, le Troisième Reich veut endiguer l'avancée des troupes alliées. C'est la contre-offensive des Ardennes.
Les V1 et les bombes à fumigène amènent la destruction derrière les lignes adverses. Des centaines de batteries portent le coup fatal à l'ennemi.
250 000 soldats allemands sont mobilisés et plus d'un millier de chars. Une bataille féroce s'engage.
Rapport du secteur sud. Le commandant Schneider ne rencontre qu'une faible résistance. L'ennemi part en retraite.
Aussitôt, les collaborateurs français réfugiés à Sigmaringen sont saisis d'enthousiasme. Et trois jours plus tard, leur feuille de chou officielle s'en fait l'écho.
Le journal La France, 20 décembre 1944. L'offensive allemande étonnera le monde entier. Sur un front de près de 100 km, les formations allemandes sont passées à l'offensive, samedi au lever du jour. L'ennemi fut complètement surpris par cette violente offensive, précédée d'une brève mais gigantesque préparation d'artillerie sur toute l'étendue du front de l'Eifel.
Le 16 décembre 1944, Hitler va lancer une très grande offensive, qui est l'offensive des Ardennes.
Olivier Viejorka, historien.
Son objectif serait idéalement de rejeter les Anglo-Américains à la mer et plus modestement d'atteindre Anvers. Il faut se rappeler que la logistique joue un rôle essentiel, que la logistique, cela revient donc à acheminer des hommes et du matériel sur le théâtre des opérations, et donc du coup il faut des ports et des ports en eau profonde. Et de ce point de vue, Anvers joue un rôle bien évidemment crucial, et en reprenant Anvers, Adolf Hitler pense qu'il pourra au fond casser la dynamique victorieuse qui sert pour l'heure les Anglo-Américains.
En atteignant Anvers, nous coupons l'ennemi en deux. Il lui faudra 18 mois pour s'en remettre. Pendant ce temps, l'Allemagne retrouvera la supériorité aérienne grâce aux avions à réaction et aura mis en œuvre des armes secrètes aux effets terrifiants, capables de supprimer toute existence dans un rayon de plusieurs kilomètres.
D'énormes moyens, bien que le Reich soit à l'agonie, sont consentis pour cette offensive, qui est relativement bien préparée. Donc le 16 décembre 1944, l'offensive se déclenche et elle surprend littéralement l'état-major allié, à commencer par Eisenhower. Et donc vous avez cette énorme surprise, une surprise qui est par ailleurs amplifiée par les ruses et les subterfuges qu'utilise l'armée allemande. Vous allez avoir des soldats qui sont déguisés en soldats américains, vous allez avoir une inversion des panneaux indicateurs. Donc vous avez une forme, si vous voulez, de brouillard, hein, qui prend les alliés au dépourvu et qui permet à l'armée allemande de marquer quelques points.
Pourquoi vous arrêtez-vous là? Allons-y, continuez. Écoutez-moi bien, je vous dis que ces écriteaux ne sont pas dans la bonne direction. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un a changé les écriteaux de place, mon lieutenant. C'est pas de ce côté-là, on blaire.
Monsieur Helmut Zundermann, chef adjoint de la presse du Reich, a déclaré devant les représentants de la presse étrangère à Berlin « Le fait que l'armée allemande soit passée à l'offensive à l'ouest, étonnant par là le monde entier, ne manquera pas de produire son effet sur l'opinion mondiale. »
La contre-offensive des Ardennes est quand même une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'objectif n'est pas tant de reprendre le territoire français, c'est pas tant l'objectif des Allemands.
Henri Rousseau est historien.
Un, c'est stopper l'avance alliée qui piétine quand même. Les alliés ont eu du mal à traverser le Rhin. Le front de l'Ouest s'est relativement stabilisé. On est en plein hiver. Bon, bref, la stratégie des Allemands, c'est de stopper l'avance et de couper les lignes ennemies par des mouvements de faucilles. C'est une bataille importante qui engage énormément de troupes, qui aura d'ailleurs un bilan extrêmement élevé, hein. 100 000 morts côté allemand, 80 000 morts côté allié. C'est 80 000 morts côté allié, c'est plus de deux fois le bilan de la bataille de Normandie, sur deux mois et demi. Donc voilà, on est devant un événement absolument considérable en termes militaires de la Seconde Guerre mondiale.
Dans cette bataille, il va nous falloir être à la hauteur de nos chars. Je veux atteindre l'objectif qui m'a été assigné sans me soucier de ce qu'il en coûte.
Alors, pour résumer, l'offensive démarre le 15 décembre. On enfonce le front, c'est classique, c'est une contre-offensive en forme d'éperon, mais très vite, ils vont être arrêtés à Bastogne. C'est un nom qui résonne, bien sûr. Et après, très vite, la contre-offensive va se déliter. Elle va finalement, évidemment, échouer, on va dire, début janvier, vers le 15 janvier, c'est terminé. Ça, c'est l'histoire, la grande histoire, on va dire, telle que nous, on la connaît. Bon. Perçu au château, c'est Noël. Enfin, c'est pas une image, c'est vraiment Noël. Ils sont... ça y est. Alors, il faut dire aussi que, parmi les conversations qu'ils ont, les Allemands ont des armes secrètes. Donc on se dit qu'ils vont utiliser les fameuses armes secrètes, les V1 et les V2 par exemple, Et effectivement, durant la bataille des Ardennes, un certain nombre d'armes nouvelles, on va dire, enfin, secrètes en tout cas, sont des armes d'un type nouveau, des missiles, par exemple, d'un type nouveau, vont être utilisées.
Témoignage de François Crouzet, adolescent exilé à Sigmaringen, 1988.
Beaucoup des gens de cette colonie croyaient ou voulaient croire encore aux armes secrètes, au V1, au V2, à la contre-offensive des Ardennes, enfin à tous ces rêves.
Ainsi, avec cette riposte allemande, la colonie des collabos français jouit d'une divine surprise, expression inventée par Charles Maurras après la prise du pouvoir par Philippe Pétain en juillet 1940.
Pour accomplir la tâche immense qui nous incombe, j'ai besoin de votre confiance. Vos représentants me l'ont donné en votre nom. Ils ont voulu, comme vous et comme moi-même, que l'impuissance de l'État cesse de paralyser la nation.
Je vous en prie. Oui.
Revenons en novembre 2024. Dans les couloirs du château de Sigmaringen, je déambule aux côtés de l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon, avec une question. Quelle est l'humeur au sein de cette enclave dans les jours qui suivent l'offensive des Ardennes?
Vous pouvez imaginer qu'à Sigmaringen, c'est le soulagement, voire l'enthousiasme. En lisant la presse allemande, ils espèrent vraiment que cette contre-offensive va s'enfoncer de plus en plus en France et marquer un retournement de la situation militaire, mais aussi un retournement de leur propre situation. Car peut-être pourraient-ils revenir en France, presque comme des vainqueurs, et il y aurait à nouveau un territoire français sur lequel ils pourraient s'installer, asseoir la légitimité de leur commission gouvernementale et peut-être que cela pourrait présager d'autres victoires, voire ce qui a toujours été le grand rêve, un retournement des alliances, c'est-à-dire que les alliés anglo-américains choisiraient finalement de se joindre aux Allemands dans la lutte contre les soviétiques, les bolcheviques et autres communistes.
Dans le corps de garde du château, l'historien Henri Rousseau me confirme les conséquences de cette aubaine tombée du ciel.
Donc il y a une espèce d'effervescence, on se dit, les alliés vont peut-être perdre la guerre, enfin perdre en tous les cas, reculer. Et donc c'est l'euphorie, tout le monde déjà commence à préparer presque ses valises, enfin, c'est une image, mais il y a par exemple un épisode qui est assez haut en couleur, c'est la visite de Léon de Grelle. Bon alors Léon de Grelle, c'est le fasciste belge, lui-même engagé dans la Waffen-SS, et il vient voir ses frères fascistes français, et il va avoir cette phrase extraordinaire, « Nous serons les premiers à Bruxelles, soyez les premiers à Paris, vive la France bon. !»
Léon de Grelle, 1943.
Nous sommes avec Hitler. Nous sommes avec Hitler parce que nous croyons à son génie et que de son génie sortira enfin ce que les efforts dispersés de 20 peuples d'Europe pendant 1000 ans n'avaient pu réaliser encore.
Voilà, donc ça donne un peu la mesure de leurs espoirs. Qui, encore une fois, paraissent avec le recul ridicule. Mais une contre-offensive, par définition, quand elle démarre, on ne sait jamais si elle peut échouer ou réussir. Donc il y avait une part de réalité dans l'espoir qu'il fomentait. Ça dit surtout jusqu'où, ces gens étaient prêts à aller, puisqu'ils sont en train de préparer un gouvernement qui rentrerait en France avec les chars allemands. Vous imaginez les Allemands revenant en France après la libération, enfin on écrit une histoire évidemment qui ne s'est jamais déroulée, mais on imagine ce qu'aurait été le sort des Français, de la résistance, de tous ceux qui avaient des... Enfin bref, donc ces gens-là, le degré de collaboration, si je puis dire, avec les nazis, dans cette perspective, aurait été encore pire, si c'était encore possible, de ce qu'ils avaient fait durant l'occupation.
Dans cette étrange atmosphère, arrivent les fêtes de Noël 1944. les Agape Collabo se tiennent dans une galerie que nous fait découvrir Virginie Régnier-Zaop, notre guide au château.
Nous nous trouvons dans la galerie portugaise. C'est la dernière pièce qui a été construite ici au château de Sigmaringen au début du XXe siècle, après le grand incendie qui a détruit la partie est du château.
Alors d'abord, à quoi ressemble cette galerie portugaise ?
Je dirais c'est la galerie des glaces à échelle de Sigmaringen. Alors à peu près 50 mètres de long, des tentures rouges, des tapisseries. Et à la différence de Versailles, donc ici les miroirs sont au plafond, alors qu'il y a des fenêtres des deux côtés de cette galerie.
Le 24 décembre 1944, sans doute autour d'un sapin de Noël, les pro-nazis français et leurs intimités se retrouvent tous en tenue de soirée pour célébrer le réveillon.
Ah, la guerre n'est pas terminée. Les armes secrètes entrent en action. Les troupes du Reich repoussent les ennemis, mais partout. Quelle bonne nouvelle, mes amis, quelle bonne nouvelle.
Mais vos alliés ont utilisé les fusées V2. Il était temps, hein. Ils ont chaud aux fesses des bolchos.
L'Allemagne est invincible, vous voulez dire. Invincible.
Au château de Sigmaringen, Noël 1944 est teinté d'espoir, puisque c'est le moment de la contre-offensive allemande dans les Ardennes, le moment où c'est prometteur. Donc il y a une vraie célébration de Noël à ce moment-là, avec un petit peu de festivités gastronomiques et d'activités qui sont organisées.
Le journal La France. 23 décembre 1944. Rubrique à Sigmaringen. Dimanche 24 décembre 1944, à 21h précise, le comité artistique et littéraire organise une grande soirée de Noël, musicale, poétique, théâtrale, dans la salle du cinéma, avec le concours de Lucienne Delforge, René Arieux et Robert Le Vigan.
Bonsoir. Alors, en ville, le 24 au soir, au cinéma de Sigmaringen, il y a une sorte de festival à partir de 21h qui présente la pianiste Lucienne Delforge et également Robert Le Vigan, le grand ami de Céline, un acteur, un comédien avec une vraie carrière et du succès jusque-lors, qui est ici aussi à Sigmaringen, ayant fui essentiellement parce qu'il a beaucoup travaillé à Radio Paris, y compris sur des programmes très politiques. Et donc on peut supposer que pour cette veillée de Noël, il a déclamé ou lu, mais l'annonce ne nous dit pas le détail de sa prestation.
Messieurs, nous voici réunis pour attendre le général de Gaulle, retour de son voyage aux États-Unis.
Vive de Gaulle.
Satire radiophonique de Robert Le Vigan, 1944.
Il est bien entendu que nous sommes la seule France, et que la France seule, c'est nous, la République. Une et indivisible, forte et autoritaire.
Démocratique et communiste.
Socialiste avant tout.
Radical et
nationaliste. Bref, la République que tous, unis dans le même amour pour elle, nous souhaitons à la France libérée, sera notre œuvre et personne ne le saurait contester.
Bravo.
Je puis vous affirmer que le président Roosevelt pense ainsi et qu'il a crié avec moi « Vive de Gaulle, vive le comité ». Vive la France libre et souveraine. Et il a ajouté.
Quoi ?
Et il a ajouté qu'il était bien entendu qu'en dernier ressort, c'était Eisenhower qui déciderait.
Je peux ?
De son côté, Philippe Pétain demeure reclus dans ses appartements.
Bonsoir, monsieur Pétain.
Mais il aspire vivement lui aussi à rentrer en France. D'autant plus qu'une haute cour de justice a été créée, chargée de le juger. Quant à Pierre Laval, devenu invisible, il fête Noël en comité restreint et il ne croit plus en la victoire de l'Allemagne. Quelques jours plus tard, se profile la nuit de la Saint-Sylvestre et l'enthousiasme des collabos ne faiblit pas.
Le journal La France, 30 décembre 1944. Rubrique à Sigmaringen. Tous les Français de Sigmaringen sont invités par le comité artistique et littéraire à la grande soirée de variété qu'il organise au bénéfice d'œuvres de bienfaisance le dimanche 31 décembre 1944 à 20h30 pour la veillée du jour de l'an dans la salle du Deutsches Haus avec le concours de tous nos camarades du comité.
À la victoire d'Hitler sur les bolcheviks, les juifs et la réveille. À la santé du Führer.
À la santé du Führer.
Quand pourrons-nous revenir à Paris, croyez-vous?
Ah ben, quand les premiers fourgons allemands y entreront, mon petit.
Attention, minuit approche. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année.
Ici, dans toute la colonie française, pas seulement parmi les membres de la commission, il y a l'espoir complètement fou, encore d'une victoire allemande, ou du moins d'une paix de compromis, qui leur permettrait de se sauver, tout simplement de sauver leur vie. Sont-ils dans le déni? Je dirais que probablement ils n'ont pas le choix parce que sinon ils seraient tout à fait accablés. Donc ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Ce dont ils sont extrêmement conscients, c'est bien de l'avancée des armées soviétiques à l'Est et du fait qu'elles se rapprochent de plus en plus de l'Allemagne. Bon. Ici à Sigmaringen, on est relativement à l'ouest, donc ils peuvent penser avoir encore une petite marge de sécurité, mais c'est quand même une très grande angoisse.
Début janvier 1945, c'est la gueule de bois. La contre-offensive des Ardennes a du plomb dans l'aile.
Mais non! Les apparences sont trompeuses. Ah, vous êtes jeune. Excessif.
Mais les acharnés de la collaboration veulent entretenir la fiction d'un retournement possible. Il faut donc souder la colonie. Et pour ce faire, ils vont user de leurs propres outils de propagande, comme le journal La France, créé par Jean Lucher dès son arrivée à Sigmaringen en octobre 1944.
Jean Lucher dans le premier numéro du journal La France, le 26 octobre 1944. Ce journal s'adresse essentiellement à ces 1500 000 Français qui, vivant et travaillant en Allemagne, sont en voie de devenir la suprême réserve humaine de la France, de cette France que la libération a couverte de ruines et que les libérateurs abandonnent à la plus sinistre et à la plus sanglante des guerres civiles.
Alors, pour commencer, qui est Jean Lucher? Réponse de l'historien Renaud Meltz.
C'est très intéressant, Jean Lucher, parce que ça incarne une tendance, une mouvance peut-être un peu inattendue dans notre imaginaire des collabos. Jean Lucher, c'est un homme de gauche, c'est un intello, qui n'est pas du tout prédestiné à devenir un nazi. Quelqu'un de relativement jeune, il est né en 1901. Il est né dans une famille d'intellectuels, d'artistes, il se marie jeune. Il va avoir de nombreux enfants, dont l'une de ses filles, Corinne, qui est un peu oubliée aujourd'hui, va être une jeune star du cinéma, qui vient ici avec lui à Sigmaringen après avoir mis au monde un enfant qu'elle a eu avec un officier de l'armée de l'air allemande.
C'est un beau bébé, vous savez, il pèse au moins 7 livres et demi. Ça, je vous le jure, le papa peut être fier, hein. Ça, c'est de la belle voix, votre main, ce gars.
Comment qu'on l'appelle?
Je sais pas.
Corinne Lucher était une étoile montante du cinéma français dans les années 1930.
J'ai raté le rôle.
Quel rôle? Pourquoi rater? Rater quoi?
Bah le Kayat, la fausse maîtresse. Ils prendront Darieux. L'assistant m'a dit que j'étais en balance avec elle.
Son amie, l'actrice Micheline Prel, se souvenait d'elle en 2009.
Oui, ça a été un événement, le premier film de Corinne Luchaire, qui était Prison sans barreau. Ça tranchait beaucoup sur tous ces films d'avant. Et c'était tout à fait nouveau, elle avait quelque chose de très moderne. Parce qu'avant, les jeunes premières, c'est-à-dire les jeunes femmes, étaient jouées par des femmes de 35 ans. Et je crois que c'est vraiment Corinne Luchaire qui a été ce modèle, ce premier modèle, réellement, très moderne.
Pourquoi t'es-tu enfuie?
Parce que je suis innocente.
Mais innocente?
Parfaitement, je suis innocente. Vous êtes comme les autres, vous ne me croyez pas. Mais ça m'est égal. La tête sur le billot, je le répéterai, je suis innocente.
Où as-tu passé ces deux jours?
Dans une boîte de nuit.
Intellectuel marqué à gauche et père d'une vedette de cinéma, comment expliquer le cheminement de Jean Luchaire vers la collaboration?
Jean Luchaire, pour le comprendre, il faut voir qu'il est d'abord animé par un pacifisme viscéral. Les jeunes gens qui sont nés en 1901 vont beaucoup se poser la question de se positionner comme une nouvelle génération par rapport à la guerre. Il est très marqué par le cataclysme européen, le suicide européen qui a été la Grande Guerre. Et il va faire partie de ces jeunes gens un peu inclassables, mais qui appartiennent à la mouvance, on va dire, du centre-gauche, proche du Parti radical, mais le Parti radical est lui-même une espèce de ventre mou de la République, où il y a beaucoup de tendances. Et il va se faire remarquer comme un jeune journaliste très brillant qui va participer à la création d'un nouveau journal, qui, en 1927, c'est-à-dire en plein dans la dynamique de réconciliation franco-allemande voulue par Aristide Briand, va essayer de propager l'idée qu'il faut tourner le dos définitivement aux guerres fratricides européennes. Et pour bien comprendre que rien n'est écrit, dans l'équipe de Jean Luchaire, il y a des hommes qui vont devenir des grands résistants, à commencer par Pierre Brossolette.
Pierre Brossolette ?
Mon général, Mr. Prime Minister.
Monsieur le Premier ministre, je vous présente un journaliste de talent qui nous arrive de Paris.
Qui vous arrive d'une France qui souffre ?
Dans son équipe, il y a non seulement Pierre Brossolette, mais il y a aussi Pierre Mendès-France. Vous voyez des noms qui résonnent pour nous d'une façon évidemment très, très différente de ce qu'on peut imaginer de cette colonie de collabos à Sigmaringen. Évidemment, ni Brossolette, ni Pierre Mendès-France ne sont là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vers 32-33, l'équipe commence à se poser des questions face au raidissement nationaliste allemand. Et en 34, l'équipe explose complètement, c'est-à-dire que Brossolette et Pierre Mendès-France quittent le journal. Ils considèrent qu'on ne peut pas continuer à militer face à l'Allemagne nazie pour une réconciliation franco-allemande. Entre-temps, il y a un autre personnage qui joue un rôle clé pendant la collaboration que Luchaire va rencontrer et qui va devenir un ami proche, c'est Otto Abetz.
Otto Abetz, ex-ambassadeur nazi à Paris, lui aussi présent à Sigmaringen, est né en 1903. Professeur de dessin, pacifiste, il œuvre pour la réconciliation franco-allemande au début des années 30. Et c'est à ce moment-là, en 1932, qu'il se rapproche encore un peu plus de Jean Luchaire.
Toi ?
Surprise !
Oh. Entre,
merci.
Une des secrétaires de Jean Luchaire va devenir l'épouse d'Otto Abetz. C'est une Lilloise, Suzanne de Bruyckaere. Et ça crée évidemment un lien presque intime, presque familial entre Luchaire et Abetz. Et ça prouve, aux yeux de Luchaire, la bonne foi de la francophilie d'Abetz.
Montre-moi comme t'es superbe. Je vous invite à dîner, j'ai réservé une table au restaurant, d'accord ?
À ce soir.
Abetz va se convertir, on peut dire, un peu comme Luchaire, il lui ressemble d'une certaine façon par opportunisme, par carriérisme, par besoin d'argent au nazisme. Et comme vous le savez, Abetz va finir par représenter le régime nazi à Paris et faire de l'ambassade d'Allemagne près de Lille une espèce de place forte de la propagande nazie qui va rabâcher la volonté définitive d'une paix franco-allemande, qui va rabâcher l'idée que l'Allemagne veut faire de la France son partenaire pour créer l'Europe nouvelle. Et Luchaire va complètement aller dans ce sens Et Blücher, à ce moment-là, change complètement de voie. C'est-à-dire que son journal, qui a cessé de paraître en mai 40 dans la débâcle, va réapparaître à partir de l'automne 40 avec un nouveau titre et va devenir un fourrier de la propagande allemande, va devenir l'un des journaux où la pensée d'Abetz peut se déployer.
Simone Signoret, dans ses mémoires, 1976. Je me suis retrouvée assistante de la secrétaire personnelle de Jean Lucher, le directeur de ce grand journal du soir et de la collaboration qui s'appelait Les Nouveaux Temps.
Ne quittez pas.
Je filtrais les coups de fil et c'est comme ça que tous les matins, j'entendais la voix d'Abetz ou de sa femme. Tous les jours aussi, il y avait l'appel du cabinet du président. Ça me prit un petit bout de temps pour comprendre qu'il fallait comprendre Laval. Tous les gens qui travaillaient dans ce journal étaient très gentils avec moi. Ils faisaient un journal qui devint vite ignoble et ils étaient tous très gentils.
Dès l'automne 1940, le patron de presse Jean Lucher se met donc au service de la politique de collaboration par le truchement de son nouveau journal.
Il le fait pour quelle raison, Lucher ? Ben, c'est toujours un peu la même chose, par pacifisme et par besoin d'argent. C'est-à-dire que Laval achète littéralement à coups de liesse de billets cette première mission. Et donc Abetz d'ailleurs a sollicité de son côté Lucher en disant « ce serait bien qu'on se parle ». Pourquoi ? Parce que Abetz lui-même a besoin de se construire une légitimité par rapport à Hitler pour montrer qu'il est non pas un diplomate fantoche dans une France qui est de toute façon administrée dans la zone occupée par les militaires allemands. Et donc pour prouver l'utilité politique de sa présence et d'une mission diplomatique à Paris, Abetz va utiliser Lucher pour effectivement échanger avec Laval et créer ce qui va devenir la politique de collaboration.
Nous allons avoir, comme vous dites, beaucoup de pain sur la planche.
Donc progressivement, Lucher devient autre chose que cet intellectuel de gauche pacifiste qui s'était compromis déjà d'une certaine façon à travers ce pacifisme avec une adhésion sans restriction aux accords de Munich en 38, et puis déjà aussi on pouvait voir quelques signaux de remise en cause du fonctionnement du parlementarisme, ce qui le rapproche beaucoup de Laval d'ailleurs, hein. C'est-à-dire on continue à se proclamer comme un libéral attaché aux libertés individuelles, un démocrate, un républicain, mais on commence à douter du parlementarisme, on place au-dessus de tout la paix, et donc à travers cette amitié avec Abetz, on va commencer à marcher à fond dans cette collaboration, dans la justification politique de la collaboration.
Nous n'avons d'autre chemin à suivre que celui de la collaboration loyale avec l'Allemagne et l'Italie. Cette collaboration, je l'ai voulue pendant la paix. Je regrette avec tristesse de devoir la faire au lendemain de la défaite.
Reportage de propagande sur Radio Paris, 1942.
Après une brillante exposition de photographies de reportage, le groupement corporatif de la presse quotidienne de Paris vient d'organiser une exposition de peintures, sculptures, dessins et gravures. Et c'est notre président, Jean Lucher, qui vient d'inaugurer l'exposition. Il est à côté de moi et je vais tenter de lui demander quelques mots.
Il peut paraître inopportun d'ouvrir en ces heures tragiques pour le pays une exposition qui touche à ses activités d'ordre artistique qui constitue en général la parure d'un État organisé, ceci précisément à l'instant même où notre pays connaît le maximum de désorganisation. Nous ouvrons cette exposition et nous l'ouvrons précisément pour prouver que nous avons une pleine confiance dans les destinées de la patrie.
Quand l'occupation allemande débute à l'été 1940, Pierre Laval, soutenu par Otto Abetz, veut rallier à sa cause des personnalités de gauche pour rassurer tous les Français sur le choix de la collaboration.
Dans la politique de collaboration, Laval et Abetz ont tous les deux besoin pour leur propagande, pour justifier la collaboration, qui est une politique qui n'était pas prévu au départ. En tout cas, les militaires allemands ne le souhaitent pas.
Renaud Meltz.
Et en fait, cette invention, cette co-construction de Laval et de Habetz passe par la nécessité de rallier des mouvements de gauche. Et Lucher incarne parfaitement ça. Mais dans ces milieux-là, ce n'est pas le nazisme, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas l'antisémitisme qui sont mis en avant. Lucher n'est pas personnellement antisémite, Laval non plus. Mais ce sont des gens qui rentrent dans la collaboration au nom du pacifisme et au nom de cette idée d'une Europe qui sera reconstruite par une Allemagne suffisamment forte et stable pour garantir cette paix aux côtés de la France.
L'Allemagne va gagner la guerre, c'est sûr. Et dans cette Europe nouvelle qui va naître, la France doit trouver sa place. La collaboration est donc absolument nécessaire.
Pierre Laval et Jean Luchaire ne se percevaient pas comme des antisémites. Il faut comprendre que c'est leur choix de collaborer avec les nazis, bien plus qu'une idéologie personnelle, qui les a conduits au pire. Organiser la rafle du Veldiv en juillet 1942 pour Pierre Laval.
Bah, on ne peut pas séparer les enfants des parents qui partent avec eux. Vous connaissez les conditions d'accueil ?
Non, et on ne peut pas les laisser seuls, qui voudraient s'en charger.
Ou donner des gages aux Allemands dans son journal créé à Sigmaringen à l'automne 1944 pour Jean Luchaire.
Journal La France. 1er novembre 1944. Titre : Les Juifs errants reviennent à Paris. Les intellectuels juifs, qui avaient été éliminés de la vie publique par le gouvernement de Vichy, reviennent peu à peu en lumière. C'est ainsi qu'on annonçait hier à la radiodiffusion nationale le retour de Paul Abraham à la direction de l'Odéon, celui de Julien Cahin à la Bibliothèque nationale et l'arrivée de Rosenthal à la direction de l'Orchestre national de la radiodiffusion française.
Homme de presse, Jean Luchaire a créé en 1927 Notre Temps, journal pacifiste qui prônait la paix à tout prix, même avec l'Allemagne nazie après 1933. Puis, sous l'occupation, Luchaire dirige Les Nouveaux Temps, quotidien collaborationniste, avant de créer à Sigmaringen, financé par les Allemands, un nouveau journal de propagande.
Un journal d'information générale qui joue aussi le rôle de journal officiel. Donc c'est La France, qui est un journal qui commence à paraître à partir d'octobre 44 ici. Et donc vous avez un journal qui emploie finalement plusieurs dizaines, on parle même de 200 salariés de Luchaire, pour publier, écrire ce journal et créer également une radio qui, là aussi, peut paraître une espèce de chose assez improbable pour une communauté française aussi réduite, mais qui vise à constituer une espèce de contre-propagande d'équivalent, si vous voulez, à ce que peut être Radio Londres, c'est-à-dire une radio qui, depuis l'étranger, défend la voix légitime de la France.
Français, c'est Jean Luchaire qui vous parle au micro d'ici la France. Ce qu'il faut constater, ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que la France n'est que le jouet des intérêts anglo-américains. Les anglo-américains ne considèrent pas la France comme alliée, mais comme vassale.
Et donc cette radio, ici la France, qu'on appelle parfois Radio Sigmaringen, qui n'émet que une ou deux heures par jour, hein, pas davantage, en fin de soirée, entre en gros 19h et 21h, 21h30, et qui permet de défendre cette fiction d'un État français qui se survivrait et qui continuerait à pouvoir produire de l'information et avoir une espèce de création d'une opinion publique favorable à la poursuite de l'existence de l'État derrière le maréchal Pétain et la commission gouvernementale de Morino.
À partir de janvier 1945, sur les ondes de cette radio à Sigmaringen, Jean Luchaire se mobilise pour lutter contre la résistance.
Jeunes Français, ne répondez pas aux appels de mobilisation des communistes et de leurs alliés gaullistes. Vous iriez donner votre courage et vos vies à une entreprise guerrière funeste aux véritables intérêts de la France. Vous vous prêteriez à la plus abominable des escroqueries. Français, en cette nouvelle année 1945, résistez, désobéissez, aidez-nous. C'est seulement avec notre victoire que vous verrez la fin de nos malheurs.
C'était Jean Luchaire au micro d'Ici la France.
Trinité Schilmans, comptait parmi les exilés de Sigmaringen, où il a approché Jean Luchaire. Et en 1982, il conservait un vif souvenir du commissaire à l'information.
Luchaire, c'était l'arriviste, le combinard, il aurait fait tuer 25 personnes pour que ça lui rapporte quelque chose. Et c'était vraiment un sale type, fou comme un jonc, toujours tiré à quatre épingles, cravate, pochette, mais un sale type.
Jean Luchaire, son épouse et leur fille Corinne, une famille plutôt ancrée à gauche dans l'entre-deux-guerres, ont atterri à Sigmaringen à l'automne 1944. Comment l'expliquer ?
Ces gens qui sont plutôt des bourgeois, hein, pour les Luchaires, des gens qui aiment bien vivre, sont obsédés par l'idée que l'Europe va être bolchevisée et que les Allemands sont en fait le seul rempart face à cette marée communiste qui se prépare avec l'avancée de l'armée rouge, avec l'idée aussi que les Anglais, finalement, utilisent les Français comme une espèce de variable d'ajustement dans leur politique, mais ne sont pas vraiment des Européens, que les Américains, comme après la Grande Guerre, vont finalement avoir une diplomatie isolationniste, et que finalement, les Français, s'ils ne jouent pas la carte de l'Allemagne, seront des victimes de cette Russie qui fait très peur. Donc, Corinne Luchaire nous permet de comprendre aussi, d'un point de vue pas très politisé, mais d'une petite bourgeoise qui a fait une carrière de vedette, qui est très attachée à son succès dans le cinéma parlant des années 30, de la peur de matérialiste, hein, très concrète, de voir un ordre bourgeois, libéral, disparaître. Donc, elle fait vraiment partie de cette bourgeoisie parisienne qui vit bien et qui voit l'Allemagne comme une espèce de rempart, finalement, face au communisme pour préserver son mode de vie.
En 1949, dans ses mémoires intitulées « Ma drôle de vie », Corinne Luchaire réécrit le roman familial et se présente à ses lecteurs comme une victime de la grande histoire, ballottée au gré d'événements qui les auraient dépassés, elle et les siens. Comme si son cher papa n'en avait pas été lui-même un acteur convaincu.
Notre vie, ma vie, a toujours été fonction des événements extérieurs. Dès mon plus jeune âge, une crise ministérielle, par exemple, bouleversait notre situation, nous faisait renoncer à des projets, élevait ou diminuait la situation de mon père et par conséquent de notre famille. Telle politique nous permettait de connaître un foyer bien meublé, une vie plus brillante, des voyages agréables. Tel renversement, au contraire, nous valait des déménagements, des robes retapées à la maison, des vacances sans joie.
Comment t'y trouves ?
Je voudrais du moderne, moi.
Peut-être que papa aura de l'argent et meublera à ton goût.
C'est pas de mal avec.
Mais tu passes ça, maman ? C'est bien parti pour lui.
Pourvu que ça dure.
Et puis, le drame européen. Notre drame, qui eut des prolongements tels que notre nom, notre situation, notre affection, tout fut emporté aux quatre vents de l'apocalypse.
Au deuxième jour de notre expédition à Sigmaringen, j'ai donné rendez-vous au cœur même du château à toute l'équipe qui m'accompagne. Nous voilà donc dans la salle des trophées de chasse. À mes côtés, Violaine Ballet.
Alors, c'est une pièce qui est assez haute de plafond, avec du marbre au sol, et qui est recouverte de trophées animaliers. Mais quand je dis recouverte, c'est littéralement recouverte. Chevreuils, mais aussi des faisans, des peaux d'ours, un vieux, pauvre vieux loup mal empaillé qui a juste une tête de monstre. Donc je trouve cette salle assez incroyable.
Et un peu oppressante, hein, quand même.
Un petit peu oppressante.
Oui. Après deux jours passés à déambuler dans les méandres du château, j'ai voulu savoir quelles étaient les impressions de ce petit groupe de Françaises et de Français embarqués dans cette expédition au cœur de la propriété des Hohenzollern, devenu le dernier refuge du régime de Vichy. Commençons par Fanny Petit. À 27 ans, elle est la plus jeune de notre équipe. A-t-elle croisé ce château durant ses études d'histoire ?
Non, je ne connaissais pas du tout Simaringen, et pour être honnête, j'ai entendu parler du château la première fois en écoutant le podcast sur Pétain. Donc, il y a un petit peu quelque chose de symbolique de revenir pratiquement 2 ans après ici avec l'équipe qui a produit le podcast. Donc, c'est assez marrant. Et voilà.
Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
C'est moi seul que l'histoire jugera.
Notre podcast sur Philippe Pétain, ce fut la première série de cette grande fresque documentaire que nous avons consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Juliette Medevielle a réalisé de nombreux épisodes de ces différentes séries historiques. Quel sentiment la traverse ici, à Sigmaringen ?
C'est complètement anachronique, en fait, de les imaginer en 1944 arriver dans ce décor de film qui devait donner une dimension vraiment très à la fois burlesque et en même temps un peu pathétique, en fait, j'ai l'impression. Enfin, c'est ça, c'est vraiment fin de règne dans un décor qui va leur survivre, en fait.
Ce décor, Louis-Ferdinand Céline l'a très bien décrit dans son roman « D'un château l'autre », un récit au scalpel où il n'épargne aucun des exilés de Sigmaringen et surtout pas Philippe Pétain.
Oh, que vous incarnez la France, monsieur le maréchal. Le coup d'incarner est magique. On peut dire qu'aucun homme résiste. Prenez n'importe quel bigorneau, dites-lui dans les yeux qu'il incarne. Vous le voyez folle. Vous l'avez à l'âme, il se sent plus. Pétain, qui l'incarnait la France, il a godé à plus savoir si c'était du lard ou cochon, Gibet, Paradis ou Haute-Cour, Douaumont, l'enfer ou Thorez. Il incarnait. Le seul vrai bonheur de bonheur, l'incarnement.
Je serais même d'avis que nous levions nos verres à la Révolution nationale magnifiquement incarnée par le maréchal. Vive la France !
Cette description cynique de Pétain par Céline fait écho au ressenti d'Irène Menahem, avec qui je prépare tous nos documentaires depuis 4 ans.
Pour moi, c'est un château qui évoque l'errance, parce qu'il y a ces espèces de grandes galeries, ces couloirs interminables, ces trébis cornus, ces labyrinthiques. Et ce vieillard Pétain qui doit marcher, qui doit prendre l'ascenseur, qui doit errer, il y a quelque chose de fantasmagorique. Et surtout, j'ai vraiment visualisé la vacuité de ces personnes, c'est-à-dire Pétain, Laval, les collaborateurs, qui en fait jouent à la comédie du pouvoir. C'est un lieu, je trouve, qui incarne ça, qui incarne la comédie du pouvoir.
Céline, dans « D'un château l'autre », 1957. Sigmaringen ? Quel pittoresque séjour. Vous vous diriez en opérette. Le décor parfait. Stuc et carton-pâte.
Opérette, c'est le mot qui fait mouche dans l'esprit de François Reinhardt, journaliste du Nouvel Obs, qui nous accompagne lui aussi dans ce voyage à Sigmaringen.
C'est pas une opérette, c'est une pièce tragique en fait qui se joue ici. Tous ces gens qui sont là, ils ont fait vivre l'enfer à la France pendant 4 ans. Et ici, ils sont purgatoires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore châtiés, mais ils sont sur le point d'être châtiés. Et ce purgatoire, c'est le fait d'être dans ce grand château où il devait faire très très froid l'hiver. Là, je vous parle, là, on a tous très froid. Hein,
on ressent bien.
Voilà, voilà. Et que par ailleurs, ils se haïssent tous. Donc tous ces gens-là qui se haïssent entre eux, ils payaient déjà en quelque sorte.
C'est précisément ce qui frappe l'historien Henri Rousseau, l'atmosphère délétère qui régnait ici entre toutes les personnalités de la collaboration.
Marcel Déa, Fernand Brénon, Jean Luchère, tous ces gens se haïssaient cordialement. Il y a des rivalités considérables, c'est une des caractéristiques de ce qui se passe ici, et tous ces gens-là réunis étaient en rivalité avec Jacques Doriot, bon, qui se trouve un peu plus loin.
Sigmaringen n'est pas assez bien pour lui. Il veut, avec l'aide d'une partie des grands chefs Bosch, le pouvoir. Tout le pouvoir. Enfin, on parlera de ça plus tard.
L'objectif, c'est qui va être le leader de tout ça. Ils sont dans une illusion, ils vont rentrer en France. Et donc, quand ils vont rentrer en France, ils vont former un gouvernement à la solde des Allemands, c'est clairement dit. Et donc, qui va prendre la tête de ce gouvernement? Et donc, voilà, c'est l'objet des différentes intrigues.
Céline, dans D'un château l'autre, 1957. Fâcherie absolue. L'effrénésie de toutes les rancœurs. Là, c'était au point qu'ils osaient même plus se regarder. Qu'ils en avaient sur la patate, qu'ils se seraient massacrés là, à table, au repas, d'un œil de travers. Ils aiguisaient leurs couteaux entre la poire et le fromage d'une façon si menaçante que toutes les épouses se levaient.
Cette galerie de personnages fait aussi réagir Violaine Ballet, réalisatrice de nos podcasts.
Il y a quand même une forme de colère. Enfin, moi, j'éprouve une forme de colère à imaginer ces gens se racontant une histoire après le mal qu'ils avaient fait en France et qui vivent là et qui peuvent encore imaginer que l'Allemagne va gagner alors que l'Europe est à feu et à sang et en ruine. Enfin, il n'y a pas grand-chose à sauver de ces gens-là, je trouve.
Enfin, quel regard porte Frédéric Martin, notre archiviste sonore, sur ce château de Sigmaringen?
La présence finalement française est totalement ignorée, elle n'est pas palpable du tout. Nous, on sait que c'est la chambre de Laval, la chambre de Pétain, mais il n'y a rien qui le signale, et je pense que tous les touristes qui passent ici n'ont aucune connaissance de ça. Et à la limite, à titre personnel, je dirais tant mieux, parce que finalement, ce n'est pas vraiment très glorieux pour l'histoire de France, tous ces hommes et ces femmes qui ont fini ici, dans l'attente d'une hypothétique changement de destin de la guerre, et je pense que c'est mieux finalement de les oublier aussi, mais voilà.
En effet, au château de Sigmaringen, on ressent à peine la présence des fantômes de la collaboration. Ce sont les vaincus de l'histoire, frappés du sceau de l'indignité. Et pourtant, tous ces gens-là ont cru jusqu'au bout qu'ils pourraient gagner.
Si l'offensive des Ardennes avait même fonctionné en partie, même si les Allemands n'avaient pu reconquérir que la rive gauche du Rhin, et même pour un temps limité, eh bien ces gens-là auraient eu un pouvoir, ils auraient exercé un pouvoir sur une portion du territoire français. Donc c'est à la fois ridicule, mais encore une fois, il faut bien prendre la mesure, au fond, jusqu'où a été la trahison de ces gens-là.
En conclusion de ce quatrième épisode, retenez d'abord qu'à Sigmaringen, les collabos français ont été galvanisés par la riposte allemande dans les Ardennes.
La première phase de notre offensive a été un succès. L'élément de surprise a été complet et les communications américaines sont dans un désarroi total.
Et en janvier 1945, ils sont encore nombreux à croire que le cours de l'histoire puisse s'inverser en leur faveur.
L'Allemagne ne sera pas battue. Jamais.
Une fiction entretenue par Jean Luchaire, le commissaire à l'information au sein de la commission gouvernementale présidée par Fernand de Brino.
Jean Luchaire, qui se prend pour le ministre qui n'est pas de l'information, à la tête d'un journal sans lecteur et d'une radio sans auditeur.
Jean Luchaire, incarnation de ces personnalités de gauche qui ont finalement rejoint les pétainistes en 1940 et qui ont donc abandonné les idéaux de la gauche pour embrasser l'idéologie de l'extrême droite. Parmi ces transfuges de la gauche vers l'extrême droite, un homme vers lequel se tournent désormais tous les espoirs des pro-nazis français réfugiés à Sigmaringen en cet hiver 1945, Jacques Doriot.
La dictature des Américains et de leurs amis juifs et francs-maçons ne durera pas tout le temps. Vous aurez une magnifique revanche, car nous voulons vous libérer du joug honteux qu'ils vous font subir.
Comment Jacques Doriot, ancien cadre du Parti communiste, est devenu le Führer français en 1945, c'est l'horizon du prochain épisode. Le crépuscule des bourreaux, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Elsa Le Poivre, de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Fanny Petit et Alice Doucerin. Documentation sonore, Frédéric Martin. Prise de son à Sigmaringen, Gilles Gallinaro. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, Les funérailles du corbeau. Le crépuscule des bourreaux est un podcast original de France Inter.